Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des banderoles déployées ce matin sur les casernes des pompiers au premier jour d'une mobilisation nationale qui va durer 6 semaines. Ils vont demander plus de moyens financiers, matériels et humains. On va y revenir. On reviendra aussi longuement sur l'info qu'on vous révèle depuis ce matin sur RMC dans l'affaire Liana, à savoir la piste d'une mort par asphyxie mise en évidence. Et sur les récoltes catastrophiques, également des vendanges, les viticulteurs, vous les entendrez, s'attendent déjà à la pire année depuis 30 ans.
Après avoir lutté contre le feu tout l'été, les pompiers se lancent dans une longue mobilisation de colère ce matin.
Elle va durer 6 semaines à l'appel de leurs 9 syndicats pour réclamer davantage de moyens, et pas que financiers d'ailleurs, au moment où le gouvernement va leur dévoiler un projet de loi visant à moderniser le système de sécurité civile. Ils ont l'obligation, vous vous posez certainement la question, d'intervenir ainsi nécessaire, mais vous allez sûrement voir des banderoles et des messages donc à partir de ce matin sur leurs casernes ou leurs camions. Ils disent notamment, Vincent Chevalier à Lyon pour RMC, eh bien qu'ils doivent de plus en plus souvent partir en intervention et qu'il faudrait recentrer leur mission.
Des interventions plus nombreuses, souvent plus techniques. Pompier depuis 12 ans, Florian a vu son métier évoluer.
La priorité, c'est de partir en intervention. Le problème est que si on prend le cas des incendies, c'est de plus en plus technique. On doit, si on suit la logique, continuer en fait à se former et continuer à maintenir, si je peux appeler ça, ce niveau d'excellence. On manque cruellement de personnel pour continuer à maintenir en fait nos compétences en caserne.
Des conditions de travail qui commencent à peser sur les effectifs, d'après Steve Martinez, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels dans le Rhône.
Ce qui est malheureux, c'est qu'on a une augmentation des maladies, on a une augmentation des pathologies, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus pris en compte.
Et selon les syndicats, tous ces manques ont des conséquences pour la population. Valentin Violet, porte-parole Sud.
On commence déjà à le voir avec des temps de secours qui s'allongent, et des temps d'intervention qui ont augmenté de plus de 2 minutes en France.
Cette mobilisation n'impactera pas les interventions car les pompiers peuvent être désignés voire réquisitionnés pour assurer la continuité de leur mission.
Et il y a aussi les agents de la fonction territoriale hospitalière qui se mobilisent à partir d'aujourd'hui. L'hôpital meurt, voilà ce que dénoncent les syndicats. Ils prévoient des actions symboliques ce mardi, des minutes de silence ou des brassards noirs par exemple, après un été de surchauffe pour eux aussi avec les canicules. Les rassemblements devant les tribunaux ont repris comme prévu hier soir dans de nombreuses villes, 1 millier de personnes à Paris, des centaines à Toulouse notamment, pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. 3 mois après l'épouvantable affaire Liana, la fillette violée et tuée dans le Gers, dont on connaît les pistes possibles de la mort ce matin. C'est une information que vous nous révélez depuis ce matin pour RMC, Mathias Cesson, vous êtes le chef du service police-justice en direct. Vous nous dites que les expertises réalisées sur le corps de la jeune fille mettent en évidence donc la piste de l'asphyxie.
Oui, asphyxie mécanique par obstruction des voies aériennes supérieures. Ce sont les termes utilisés par les experts pour expliquer le décès de Liana. En d'autres termes, la respiration de la fillette a pu être empêchée au niveau de la bouche et du nez, des expertises qui suggèrent donc une mort par manque d'oxygène, par suffocation. Rappelons que l'enquête avait également démontré que la fillette avait pu être bâillonnée avec du scotch.
Concrètement, cette information, qu'est-ce que ça change pour la suite de l'enquête?
Ça signifie que les investigations médico-légales avancent, que Jérôme Barella pourrait à nouveau être interrogé par le magistrat instructeur pour être confronté à ces nouveaux éléments. Toutefois, des investigations complémentaires doivent maintenant se poursuivre pour préciser les circonstances de cette mort par asphyxie. Au mois de juillet dernier, une perquisition à son domicile avait permis la saisie d'objets pouvant avoir un lien avec la mort de la fillette. L'homme a toujours nié les faits reprochés, que ce soit le meurtre ou le viol de la fillette.
Information de Mathias Tesson, donc chef du service police justice à RMC. La Tour Eiffel va rouvrir ce matin à Paris au lendemain de la grève des salariés qui s'indignaient de l'éviction du personnel féminin. Priez de se cacher, ni plus ni moins. Des consignes ont été données, déplore la CGT. C'était samedi dernier lors de la visite d'un groupe religieux hindou. Groupe qui présente d'ailleurs ses excuses ce matin. On reparle ce matin des abayas. Enfin, ce sont les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui déplorent l'idée de la France insoumise d'autoriser à nouveau ce vêtement traditionnel dans les écoles en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon l'année prochaine à la présidentielle. La promesse a été faite durant le week-end. On verra ce qu'en dit le RN Jean-Philippe Tanguy face à Apolline tout à l'heure à 8h30. Cyprien Pézeril du service politique à RMC, les insoumis assument.
Oui, dès 2023, les insoumis s'opposaient à l'interdiction de l'abaya à l'école. Ils dénonçaient alors, je cite, une stigmatisation islamophobe et assuraient notamment qu'il ne serait pas possible de distinguer ce vêtement originaire des pays arabes d'une autre robe longue. Et si les opposants de Jean-Luc Mélenchon l'accusent toujours aujourd'hui de verser dans le clientélisme, les insoumis eux assument, bien décidés sur ce sujet comme sur d'autres, à camper sur leurs fondamentaux, que ce soit aussi par exemple sur l'écologie ou le pouvoir d'achat. On ne gagne pas des électeurs en lissant notre discours, mais en mobilisant, assure un cadre insoumis. Quand un dirigeant LFI défend, on ne doit pas se désintéresser de nos premiers cercles électoraux. Mais attention, prévient un stratège socialiste, avec ce genre de proposition, Jean-Luc Mélenchon entretient son plafond de verre et s'empêche toujours de gagner au second tour.
Le compte signé toujours pas ce matin pour les agriculteurs de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Ils seront reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu dans la journée qui juge insuffisant le plan à 1 milliard d'euros annoncé la semaine dernière pour les aider après l'été caniculaire. Été dont on ne finit plus de mesurer les conséquences sur la filière viticole notamment. Vous savez que c'est la période des vendanges en ce moment. Le ministère de l'Agriculture anticipe un niveau de production historiquement bas, à moins de 34 millions d'hectolitres. C'est 6% de moins sur un an. Pire récolte depuis 30 ans, avec des disparités régionales. Champagne, Beaujolais, Bourgogne principalement touchés, hein, Célestin Bougère.
À Ruilly, en Saône-et-Loire, le chef d'exploitation de vin bourguignon, David Lefort, se plonge dans ses comptes.
Les pertes s'élèvent à 40% sur les chardonnays et 50% sur les pinots noirs.
50% de pertes pour le pinot noir, c'est la moyenne cette année en Bourgogne. Un chiffre qui a de quoi inquiéter. Mais avec les épisodes de sécheresse et de forte chaleur, David Lefort s'y attendait.
Une partie des raisins grillent au soleil avec des fortes températures. On risque de perdre des marchés ou de limiter fortement notre offre à la clientèle.
Cette année, ce n'est pas seulement la sécheresse qui a touché le domaine d'Annie Copéret dans le Beaujolais.
Deux gros orages de grêle qu'on a eu.
Moins 30% de raisins récoltés cette année en moyenne pour les Beaujolais. Les prix devraient augmenter légèrement selon la viticultrice.
Ils augmenteront pas proportionnellement. On compensera jamais la perte avec l'augmentation de nos bouteilles. Mais la qualité, là, par contre, hein, c'est une année très très solaire. Donc, on fait des vins avec une belle concentration, on a cueilli avec une belle maturité. Donc, la qualité sera là.
Mais avec ces récoltes de plus en plus minces à cause du réchauffement climatique, la viticultrice prévient, de nombreux domaines pourraient à terme être contraints de cesser leur activité.
C'est la QV 2026-2027 de la Ligue des Champions qui commence aujourd'hui en football avec les 6 premiers matchs dans la soirée. Et c'est Lille qui va ouvrir le bal, hein, côté français à 21h. Lille qui reçoit le Betis Séville, Jean Baumel.
Pour attaquer cette 10e campagne de Ligue des Champions, les supporters lillois sont assez confiants.
Je pense qu'on a fait de bonnes recrues cette année. Je pense que oui, on a une équipe très équilibrée. Je pense que ça va monter en puissance match après match.
Un très bon collectif, un bon groupe. Et puis on a un bon entraîneur cette année, donc ça va le faire.
Le coach lillois, Davide Ancelotti, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions en étant l'adjoint de son papa Carlo au Real Madrid, a de l'ambition pour cette nouvelle édition.
S'il y a une chose que je suis sûr, c'est qu'on va se battre n'importe contre qui, n'importe quel terrain. Et je pense qu'on va... L'objectif qu'on a, c'est d'être extrêmement compétitif dans cette compétition.
Invaincu cette saison et à 2 points du leader monégasque en championnat, le LOSC tentera de bien démarrer sa nouvelle campagne de Ligue des Champions face au Betis Séville, puis face à des grosses cylindrées comme Arsenal ou le Bayern Munich.
Bon, et puis il n'y a plus aucun Français à l'US Open de tennis, hein, c'est fini. Le dernier représentant, Arthur Gé, a été éliminé cette nuit en 8e de finale, battu en 5-7, et alors qu'il a eu une balle de match contre le Néerlandais Van de Zandschulp.
C'était le journal de Quentin Vinet.